Anne-Cécile Brun.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI. Vous écoutez Radio France Internationale, il est midi en temps universel, 13h ici à Paris. Et c'est l'heure du journal. Bonjour Mathis Limano.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Avec à la une le Parti des travailleurs de Corée du Nord qui lance son congrès.
Inauguré en grande pompe par Kim Jong-un devant un parterre de responsables du Parti unique. On revient dans ce journal sur les enjeux de cette réunion qui a lieu tous les 5 ans entre renforcement de l'arsenal militaire et relations avec l'Occident. Tout arrangement concernant la bande de Gaza doit commencer par l'arrêt total de l'agression israélienne. La réaction du Hamas au lendemain de la première session du Conseil de la paix de Donald Trump. On fait le point dans un instant sur les annonces pour le territoire palestinien. Le président américain qui réitère ses menaces contre l'Iran. Gros plan sur le Royaume-Uni qui refuse de prêter ses bases aériennes en cas d'attaque américaine.
L'actualité internationale marquée également par l'adoption de la réforme du travail en Argentine. Réforme voulue par le président libertarien Javier Milei. Un détail dans quelques minutes.
Et les détails donc à suivre dans ce journal. On parlera également des suites de l'affaire Quentin Doranc en France. Le Rassemblement national se désolidarise du rassemblement prévu demain à Lyon. Rassemblement de l'ultra-droite en hommage aux militants. Et puis plusieurs départements de l'ouest de la France, toujours sous les eaux, ont fait le point sur les crues qui touchent l'ouest du pays.
RFI Midi.
En Corée du Nord, Kim Jong-un a donné donc le coup d'envoi du grand congrès du Parti des travailleurs.
Événement politique majeur qui se tient tous les 5 ans et qui coïncide cette année avec les 15 ans au pouvoir du leader nord-coréen. Objectif, définir les politiques du régime pour les prochaines années, mais également revenir sur ce que Kim Jong-un a présenté comme des succès pour le pays. Correspondance régionale, Silvio Fioretti.
Un congrès longuement attendu qui fait d'abord le bilan des dernières années du régime. Ce dernier n'a cessé de développer son arsenal militaire et nouer une nouvelle alliance avec la Russie au prix d'une économie toujours extrêmement fragile. Mais au-delà de la question militaire, le parti doit également décider de la posture diplomatique du régime. La nouvelle alliance avec Moscou, signée en 2024, est une nouvelle force pour la Corée du Nord, mais cette dernière devrait acter dans les prochains jours sa fermeture ou non à l'Occident. La Corée du Nord avait en 2024 reconnu la Corée du Sud comme un État hostile, une première dans son histoire. Mais Séoul a depuis multiplié les mains tendues vers son voisin pour apaiser les tensions. Du côté de Washington, Donald Trump a également affiché son intention de rencontrer à nouveau les leaders nord-coréens. Une attitude plus ouverte des deux ennemis traditionnels du régime qui pourrait influencer la décision du parti à ne pas se couper entièrement de l'Occident. Une décision qui sera formulée dans les prochains jours à Pyongyang. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
Et on reviendra sur ce congrès, ses enjeux, dans une dizaine de minutes avec notre invité, Anthony Dufour, journaliste, ancien correspondant en Asie et auteur de nombreux livres et documentaires sur la Corée.
Et chez le voisin du Sud, l'ex-président Yoon Suk-yeol présente ses excuses pour les difficultés engendrées par l'instauration de la loi martiale. Souvenez-vous, en décembre 2024, il envoyait l'armée au Parlement sud-coréen pour le museler, condamné hier à la prison à vie. Yoon Suk-yeol a répété avoir agi dans l'intérêt de la nation.
Tout arrangement concernant la bande de Gaza doit commencer par l'arrêt total de l'agression israélienne.
La réaction du Hamas qui maintient sa position face aux appels à le désarmer, réaction qui intervient au lendemain de la toute première réunion du Conseil de la paix de Donald Trump. Les représentants d'une quarantaine de pays réunis autour du président américain à Washington avec des annonces, 7 milliards de dollars pour reconstruire l'enclave palestinienne. On en sait également plus, Nicolas Falaise, sur les contours de la force internationale de stabilisation.
Oui, avec une liste de 5 pays officiellement prêts à fournir des troupes. Indonésie, Kazakhstan, Maroc, Albanie et Kosovo. L'Indonésie s'engage à hauteur de 8000 hommes. Les autres pays n'ont pas avancé de chiffres, alors que l'ambition est d'atteindre un effectif total de 20 000 soldats. C'est le général américain Jasper Jeffers qui commandera la future force internationale. Le haut gradé a pris la parole hier devant le Conseil de la paix pour annoncer que des préparatifs étaient déjà en cours sur le terrain.
Depuis quelques mois, nous avons une équipe d'experts militaires américains sur le terrain qui prépare les infrastructures pour la Force internationale de stabilisation. Cette équipe travaille déjà à partir d'un centre d'opération conjoint qui deviendra le quartier général de la Force. Notre plan est de déployer la Force dans 5 secteurs avec une brigade dans chaque secteur.
Voilà pour les annonces. Restent les questions, à commencer par celle cruciale du désarmement du Hamas. Quel serait le rôle opérationnel de la force internationale pour ce désarmement que le Hamas refuse ? Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il n'y aura pas de reconstruction de la bande de Gaza sans démilitarisation de l'enclave.
Nicolas Falaise, les bombardements israéliens dans la bande de Gaza ont fait depuis 2 ans et demi et le déclenchement de la guerre plus de 71 000 morts, en majorité des civils. Un chiffre qui pourrait être fortement sous-évalué d'après une étude de la revue Lancet parue cette semaine. Le ministère de la Santé du Hamas souligne, lui, que 600 Palestiniens ont été tués depuis octobre dernier, soit après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
La réunion de la première du Conseil de la paix a aussi été l'occasion hier pour Donald Trump de lancer un ultimatum à l'Iran.
10 à 15 jours pour décider si un accord est encore possible, sans quoi l'imposante armada américaine déployée dans la région passera à l'action. En réponse, Téhéran assure que la riposte visera directement les intérêts américains. Nouvelle escalade alors que les 2 derniers cycles de négociations à Oman puis à Genève n'ont pas donné de résultats. Et en cas d'attaque américaine, Donald Trump a déjà sollicité le soutien de certains alliés, comme l'indéfectible Royaume-Uni. Mais voilà, surprise, Emeline Vin, Londres refuse de prêter ses bases aériennes.
Le Royaume-Uni ne va pas autoriser les bombardiers américains à faire escale ni sur la base de la Royal Air Force de Fairford, dans l'ouest anglais, ni sur l'île de Diego Garcia, dans l'archipel des Chagos, car le gouvernement ne soutient pas d'éventuelles frappes militaires en Iran. Officiellement, l'exécutif britannique indique soutenir les négociations en cours sur le nucléaire et craint que de telles frappes soient illégales. Le prêt de ces deux bases aériennes fait l'objet d'un vieil accord entre Londres et Washington. En janvier, par exemple, c'est de Fairford que les États-Unis avaient lancé l'opération de saisie du Marinera au large de l'Islande, mais le Royaume-Uni doit d'abord consentir aux interventions. Selon le quotidien The Times, les conséquences du refus britannique ont été quasi immédiates. Moins de 24 heures après avoir téléphoné à Keir Starmer, Donald Trump retirait son soutien à l'accord britannique de restitution des Chagos à l'île Maurice, un soutien primordial puisque les États-Unis y louent la base de Diego Garcia. Son administration avait pourtant validé le texte en début de semaine. Emeline Van Londres, RFI.
Toujours au Royaume-Uni, Andrew relâché de sa garde à vue hier soir, mais l'enquête ne fait que commencer, indique la justice britannique. Le prince déchu avait été arrêté dans la matinée à son domicile suite à des allégations de faute dans l'exercice de ses fonctions officielles en lien avec l'affaire Jeffrey Epstein, une affaire qui empoisonne la famille royale. De quoi fait rarissime faire réagir le roi Charles III, profondément inquiet pour qui la justice doit suivre son cours. Et puis après le britannique Keir Starmer, le canadien Mark Carney autour du chancelier allemand de se rendre en Chine à partir de mercredi prochain. Visite d'État de 2 jours pour Friedrich Merz avec au programme un entretien puis un dîner avec Xi Jinping. Cette valse des dirigeants occidentaux à Pékin s'inscrit dans un large remaniement des relations transatlantiques depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
RFI à Paris, 89 FM.
9h08 à Buenos Aires. Le président la souhaitait, la réclamait. Eh bien, les députés argentins l'ont adoptée.
La réforme du travail du président ultralibéral, un vote des députés précédé par une journée de grève générale très suivie dans le pays. Les syndicats protestent contre ce qu'ils qualifient de précarisation du travail. Bonjour Agnieszka Kumor.
Bonjour.
Le gouvernement parle, lui, de modernisation.
Projet clé de la seconde moitié du mandat du président ultralibéral Javier Milei. Cette réforme marque un changement radical dans le monde du travail en Argentine. Elle facilite notamment les licenciements, réduit le barème d'indemnité, rend possible l'extension de la journée de travail jusqu'à 12 heures, étend les services dits essentiels en cas de grève et autorise le fractionnement des congés. Le président Milei s'est félicité sur X du résultat du vote des députés, affirmant que la réforme est destinée à en finir avec plus de 70 ans de retard dans les relations du travail des Argentins. Mais pour les syndicats, il s'agit d'un texte régressif et anticonstitutionnel qui réduit les droits des travailleurs. La grève générale qui a précédé le vote a été très suivie, mais n'a pas empêché l'adoption du texte. Il doit désormais retourner au Sénat pour approbation définitive la semaine prochaine.
Les précisions d'Agnieszka Kumor. Les sanctions européennes visant Delcy Rodriguez vont-elles être levées ? L'Espagne annonce en tout cas cas qu'elle va en faire la demande. Cela fait suite à la récente loi d'amnistie générale décrétée par la présidente par intérim du Venezuela. D'après Madrid, l'Union européenne doit envoyer le signe que l'on va dans la bonne direction avec cette nouvelle étape.
En France, la manifestation en hommage à Quentin Derenque prévue demain à Lyon ne sera pas interdite.
La déclaration du ministre de l'Intérieur, mais elle sera encadrée par un dispositif policier extrêmement important, assure Laurent Nunez. Dans ce contexte très tendu, après la mort du militant d'extrême droite, sa famille ne s'associe pas à l'événement, tout comme le Rassemblement National. Raphaël Delvolvé, Jordan Bardella compte bien achever la dédiabolisation du parti.
Pas question pour le RN de risquer d'être assimilé à de possibles débordements. Jordan Bardella appelle dans un courrier les cadres du parti à la prudence. Il s'explique ce matin lors d'un déplacement dans l'Eure.
J'ai évidemment appelé le Rassemblement National à la prudence à partir du moment où nous n'avons pas d'informations sur les organisateurs de cet événement.
Prudence maximale, d'autant que la semaine dernière, des élus RN ont participé à un premier hommage organisé par les Natifs, un groupe identitaire d'extrême droite. Jordan Bardella réaffirme la doctrine du parti lancée il y a plusieurs années. Participation aux seules manifestations organisées par le RN et surtout éloignement maximal de groupes autrefois proches de l'ex-FN comme le GUD. Au moment où LFI est dans la tourmente, la stratégie de normalisation doit s'accélérer.
Je m'éloignerais si j'avais une proximité à l'égard de telle ou telle mouvance. Or, nous n'avons aucun lien avec des groupuscules violents. Nous les avons toujours combattus.
Et le président du RN se pose même en protecteur de la démocratie.
Il faut bannir tout ce qui prône de près ou de loin la violence en politique. Et je crois que le Rassemblement National est aujourd'hui le meilleur bouclier républicain pour protéger le débat démocratique de cette flambée des violences.
Avec cette ligne définie dans le sillage de l'affaire Quentin Derenque, cette position n'est donc pas une surprise. D'autant que l'appel à manifester à Lyon ce samedi, lancé par une amie du militant tué, est relayé par des groupes d'ultra-droite français, mais aussi d'autres pays d'Europe.
Et de son côté, le coordinateur national de la France Insoumise appelle à interdire le rassemblement. Manuel Bompard redoute une véritable démonstration fasciste. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. 6 suspects ont été mis en examen pour homicide involontaire. L'assistant parlementaire du député LFI, Raphaël Arnaud, est lui mis en examen pour complicité de meurtre.
En France, toujours plusieurs départements de l'ouest du pays sont toujours sous les eaux.
Maisons inondées, habitants déplacés, les crues exceptionnelles se poursuivent. Mais même si elle concerne plus la région de la Loire que le sud-ouest, où une lente décrue s'est amorcée. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour.
La vigilance rouge va tout de même s'étendre tout le week-end, voire au-delà, préviennent les autorités.
Oui, principalement les départements de la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, dans l'ouest du pays. La Loire, le plus grand fleuve de France, et ses affluents qui continuent de grossir, toujours en vigilance rouge, avec des niveaux records du jamais vu depuis 30 ans, mais les inondations de 1995. Et ce, malgré l'accalmie du côté du ciel, après 37 jours de pluie consécutifs, une séquence inédite depuis le début des relevés en 1959. Météo France anticipe enfin un répit de ce côté-là. La brûlance reste cependant toujours de mise, car la situation va durer. Les débits des fleuves et rivières sont si importants, les sols si gorgés d'eau qu'il faudra du temps pour voir les niveaux baisser. Une semaine, 10 jours, partout dans les villes concernées, on s'organise. Donc, Angers, 160 000 habitants, à son centre-ville inondé par la Maine, des planches en bois sont posées sur des parpaings pour permettre aux habitants de se déplacer. À Nantes, plus à l'ouest, une partie du périphérique est sous l'eau. Les communes aux alentours ont activé leur plan de sauvegarde. Les trains ne circulent plus et les interventions des pompiers se comptent par centaines.
Simon Rosé.
Et puis direction le tribunal judiciaire de Paris. Deuxième et dernier jour d'audience dans le procès climatique de Total Energy.
La major pétrolière accusée par un collectif d'ONG et de villes de manquer à son devoir de vigilance en matière environnementale et de ne pas en faire assez pour limiter son impact sur la crise climatique. Hier, le collectif a demandé à Total de réduire sa production d'hydrocarbures et de renoncer à de nouveaux projets de forage, une accusation rejetée par la multinationale. Ce matin, Jeanne Richard, vous êtes en direct du tribunal judiciaire de Paris. Alors pour bien comprendre les enjeux derrière ce procès, des experts ont été auditionnés par le tribunal et l'audience vient de se terminer.
Oui, ce sont d'abord des pointures de la science du climat qui ont été entendues. Les deux chercheuses ont clairement rappelé que le réchauffement climatique est dû à 70% au pétrole, au gaz et au charbon. Chaque tonne de ces énergies fossiles retirées du sous-sol accroît la crise et ses impacts dévastateurs. Sécheresse, inondations, incendies, manque d'eau ou baisse de récolte, entre autres. Passé un certain degré de réchauffement, de vastes zones de la planète ne seraient même plus habitables. Plus on attend pour changer de système, plus cela coûtera cher. Il faut que tous les acteurs de la société et agissent, dit la science. Reste que nous sommes dépendants de ces énergies fossiles, explique quant à lui l'expert appelé par Total. Et comme la demande augmente, il faut continuer à les fournir, selon cet expert. Au final, ce sont aux États d'établir les règles, a-t-il fait valoir, même si les entreprises peuvent aussi mettre en place volontairement une politique climatique ambitieuse, a-t-il concédé. Le dernier expert a quant à lui axé sa prise de parole sur la responsabilité des consommateurs, moins sur celle des entreprises. Tous les témoignages sont donc désormais sur la table, avec quelques moments de tension quant à la neutralité des uns et des autres a pu être questionnée.
Jeanne Richard, en direct du tribunal judiciaire de Paris. J'ajoute que pour conclure donc ces deux jours d'audience, les avocats de chaque partie termineront donc ces deux jours avec les dernières plaidoiries cet après-midi.
Le journal de Mathis Slimano. Il est midi et quart en temps universel. Et on passe à l'actualité sportive. Bonjour Eric Mamrut.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Pour parler d'abord des Jeux Olympiques d'hiver qui se poursuivent à Milan-Cortina en Italie, plus que trois jours d'épreuve. Cet après-midi, c'est le biathlon qui va refermer sa quinzaine olympique.
Avec en guise de bouquet final la Mastache HDR.
Le mix des cultures.
Le mix.
Le mix. Le mix de toutes les cultures. C'est sur le 99.1
FM. 99.1
FM. 99.1
FM.
Radio HDR.
Girl, she's a fine, fine, fine. Lord knows the show is fine. Girls, I can't help myself.
She's gonna do it. She's gonna do it.
Come home. And when my goose gets loose, she's gonna know I'll still be getting it on. I'm with him around town. Move it, move it. I'm gonna move it slow like a mule.
Gonna move it, girl.
I'm gonna love him funky, free, and foolish. I'm gonna do my best. Take a look at that child. He's enough to drive a poor guy wild. Take him in, check him out. I'm gonna.
She's gonna.
Shooba doop all night.
Go on and love him, girl. Go on and love him, girl.
I'm gonna try la la till the sun rises. And when the clock strikes 12,
show you up and copy him.
Ain't a fine. Girl, she's a fine, fine, fine. Ain't a fine. Lord knows she's showing.
Shut up and- limbo, limbo like me.
Limbo, limbo, limbo like me.
Limbo, limbo like me.
Yes, I want a girl to limbo like me.
Limbo, limbo like me.
I want a girl to limbo like me.
Limbo, limbo like me.
I went downtown and what did I see?
Limbo, limbo like me.
A man and a gun and a dog and a tree.
Limbo, limbo like me.
Limbo under the bright moonlight.
Limbo, limbo like me.
Limbo as your life but do not buy.
Limbo, limbo like me.
Limbo, limbo honey for me.
Limbo, limbo like me.
Limbo is a dance that pin up your knee.
Limbo, limbo like me.
The girl told me I'll never be free.
Limbo, limbo like me.
But she don't know she's one of three.
Limbo, limbo like me.
Did I see?
Limbo, limbo like me.
A man and a gun and a dog and a tree.
Limbo, limbo like me.
Limbo under the bright moonlight.
Limbo, limbo like me.
Limbo was your life but do not buy.
Limbo, limbo like me.
Limbo, limbo honey for me.
Limbo, limbo like me.
Limbo is a dance that been up your knee.
Limbo, limbo like me.
If the girl told me I'd never be free.
Limbo, limbo like me.
But she don't know she's one of the three.
Limbo, limbo like me.
Limbo, limbo, limbo like me.
Limbo, limbo like me.
You can give me a girl that can limbo like me.
Limbo, limbo like me.
Yes, I want a girl to limbo like me.
Limbo, limbo like me.
I said to give me a girl that can limbo like me.
Limbo, limbo like me.
Les enfants, un peu de radio?
Oui.
Vous voulez écouter de la musique? Ok.
Vous écoutez HDR 99.1, le mix de toutes les cultures.
La tête dans les nuages.
mais on garde les pieds sur terre. Et le temps d'un morceau, c'est l'or des sous qu'on enterre. Si l'ol la bonne humeur, tout ce qu'il nous reste, on le perd. Et bon, nous vivons bien dans nos skanking shoes. C'est comme un vieux pote chaque fois que l'on retrouve. Mais c'est là, profitons du temps qu'il reste et qu'on savoure. Chaque instant qui passe, tout ce qu'on éprouve. Scuba des babs, sourire, c'est résister. Et l'optimisme, une âme qu'on ne défait. Again and again, skipper des babs, survivre, c'est tenir le coup face aux faits. Skipper des babs, sourire, c'est résister. Motivé comme personne, délaisse tout mon stress. J'avance, profitant chaque jour d'être la ronde. Tout ce que la vie me donne, comme dans tous les récits, la vie est un défi. Si wow, motivé comme personne, un sourire, un geste, parfois change les choses quand tout autour rien ne va.
Don't belong, live in the trouble, don't hesitate.